De Paris à Londres, en passant par New York, les grands indices européens et américains sont euphoriques. En quelques semaines, ils ont retrouvé des niveaux records semblables à ceux d'avant la grande crise financière de 2008. À l'origine de cette bouffée d'optimisme, un double soulagement. Un Brexit qui se précise et une trêve dans le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, ce qui ravit Donald Trump.
La bourse a encore atteint un nouveau record hier, le 133e en moins de 3 ans sous le mandat de votre président favori. Nouveau record, je ne me lasserai jamais de vous le dire.
En France, la vigueur de la bourse contraste avec la crise sociale qui agite le pays depuis un an. Les locomotives du CAC 40, comme l'industriel de l'aéronautique Airbus et l'empire du luxe LVMH, sont brocardés. Le secrétaire d'État aux transports en a fait les frais lors d'un échange tendu avec des cheminots.
Vous bossez pour les patrons du CAC 40, vous bossez pour les grosses richesses, et vous laissez les vrais.
Mais parce que c'est la vérité.
Ceux qui produisent les richesses dans ce pays-là, vous les avez laissés crever aujourd'hui, et c'est ça la réalité.
Le gouvernement, lui, revendique le rôle moteur des entreprises du CAC 40 et de la bourse dans l'économie. Bruno Le Maire se félicite du succès populaire de la privatisation de la Française des Jeux.
L'enjeu derrière cette opération, c'est de réconcilier les Français avec leurs entreprises. Amener les Français à investir dans leur économie, dans leurs entreprises.
Cette euphorie profite-t-elle à tous? Les fruits du capital et du travail sont-ils équitablement répartis? Ou faut-il taxer davantage les dividendes versés aux actionnaires pour réduire la fracture sociale?
Appris quelque chose de la crise financière de 2008, ou si nous courons aujourd'hui exactement les mêmes risques, Christine Cardellan, est-ce que vous ressentez une espèce d'euphorie inquiétante quand on entend les chiffres de la bourse? Et est-ce qu'il faut redouter clairement une nouvelle crise, un nouveau crack?
Oui, effectivement. Je pense qu'il y a déjà plusieurs mois que la bourse est alors est-ce qu'on peut dire surévaluée? En tout cas, n'a pas l'air de correspondre à l'économie réelle. Et avant 2008, enfin 2007-2008, on était exactement
c'était
dans le cas. Donc on peut effectivement, mais cela dit, on le dit déjà depuis quelques années. Il n'est pas certain que ça explose
maintenant.
On l'annonçait
même pour 2019, le crack. Enfin,
oui, voilà, on l'a annoncé de manière récurrente, mais un jour, ça va effectivement arriver.
Alors, le chiffre du jour à propos de cette exaltation des places boursières, Anne, en France, le CAC 40
a progressé de 26%. Voilà le CAC 40 qui, rappelons-le, est cet indice qui synthétise les performances boursières des 40 plus grosses capitalisations en France. Et donc, il a cru de 26% en 2019. Erwan Tison, comment ça se fait, cette belle performance boursière, comparée à la croissance qui est quand même plutôt atone? Comment on explique cet écart-là?
Alors, déjà, il faut regarder un petit peu dans le détail. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, le CAC 40 aujourd'hui est porté par les valeurs call. Donc, en fait, c'est les valeurs call.
En fait, c'est
Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH. C'est le luxe. Aujourd'hui, presque un tiers du CAC 40 représente des entreprises du luxe. Comment est-ce qu'on explique justement que le CAC 40 puisse pousser? Parce que déjà, d'une part, ces entreprises-là croissent énormément. Depuis 2007, la croissance moyenne du CAC 40 a été de 5%, alors que la croissance des autres valeurs du CAC 40, alors que la croissance moyenne du call a été de 500%. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une classe moyenne en Chine.
À l'étranger.
À l'étranger, exactement, qui attire, qui achète ces produits-là. Et donc, du coup, ces entreprises se portent excellemment bien là-dessus. Donc là-dessus, ça pousse quelque part toutes ces entreprises-là. Ensuite, il faut se dire aussi qu'au niveau mondial, on n'a jamais eu autant de liquidités, autant de masse monétaire qu'aujourd'hui. Depuis la crise de 2008, avec les politiques accommodantes des banques centrales, notamment en Europe, on a multiplié la masse monétaire en circulation par 3.
Vers la planche à billets qui marche.
Exactement. On a multiplié donc par 3. Je ne sais pas si on se rend compte, en fait. Par mois, ça correspond à plus de 100 milliards qui sont injectés dans le système monétaire mondial. Donc forcément, cet argent-là, il va quelque part. Les taux d'intérêt étant négatifs, il est de toute façon très intéressant d'aller chercher des valeurs refuges. Et où est-ce qu'on va? Vers les places boursières.
Christophe Rameau, quand on entend ça, on se demande s'il y a une très légère déconnexion entre ce qu'on appelle l'économie réelle et ses mouvements, enfin, et ses places boursières.
En fait, il y a une connexion, mais c'est une mauvaise connexion.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on a une finance qui, en fait, joue un rôle de véritable prédateur pour les entreprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les dividendes, rien que les entreprises du CAC 40, qui sont les plus financiarisées, vous avez près des 2/3 des bénéfices qui partent sous forme de dividendes.
Vous rappelez ce que c'est un dividende pour les poètes?
C'est la part du bénéfice qui est versée justement aux actionnaires. Et donc vous en avez moins de l'ordre d'un quart simplement qui est pour l'investissement. Alors, je parle des profits.
D'accord, ok, seulement les profits.
donc tout ça, bien entendu, comprime les salaires. Et donc on a. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est pas justifié que la bourse mais absolument pas. Il faut savoir que la bourse, contrairement à l'idée qu'on en a souvent et que véhiculent les libéraux, on a l'idée que la bourse, ça finance l'économie. Mais absolument pas. Absolument pas. Il faut savoir que globalement, par exemple, en 2017, 2018, 2019, c'est pareil, les émissions d'actions, de nouvelles actions par les entreprises du CAC 40, vous savez à combien ça se chiffre ?
Dites-nous.
Zéro. Zéro, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ce que fait la bourse, c'est que, faut savoir que sur la bourse, on échange, c'est un marché de l'occasion. 98% des titres échangés sur la bourse, c'est pas des actions qu'ont émises les entreprises du CAC 40 pour se financer, ce qui leur apporte de l'argent. Ça, des petites entreprises peuvent faire. Ce sont des actions qui ont été mises il y a des années et qui changent demain. Voilà. Et donc, quand vous êtes actionnaire, la plupart du temps, les actionnaires, en particulier les entreprises du CAC 40, ne connaissent absolument pas les entreprises. Ils ne les connaissent pas tout simplement parce qu'ils veulent avoir un portefeuille liquide, vous savez, pouvoir vendre à tout moment. Mmh. Et donc, ils sont généralement propriétaires que de 0,1%, 1% des entreprises du CAC 40. Et donc, ils ne connaissent pas les entreprises. Par contre, ce qu'ils exercent sur les entreprises, donc je termine sur la prédation, ils exercent austérité salariale. Ils veulent à tout prix que la part des salaires se comprime toujours plus. Et donc, qui est l'investissement à long terme, ils n'en ont absolument rien à faire. Ce qui compte, c'est la rentabilité financière à court terme. Et donc, ça détruit les entreprises.
Mais alors, Christine Cardellan, vous disiez que c'est en train de changer, une prise de conscience ?
Paradoxalement, la bourse, au moment où elle bat les records, les bourses du monde, au moment où elles battent des records, sont en perte de vitesse. Ça rejoint un tout petit peu ce que vous dites, c'est-à-dire que les entreprises rachètent leurs propres actions, ce qui fait que ça diminue quand même ce qui est en circulation. Et beaucoup d'entreprises n'ont plus envie d'être cotées. D'abord parce qu'elles peuvent trouver de l'argent pas cher en s'endettant, puisqu'on est à des taux très proches de zéro, surtout pour des entreprises en bonne santé. Et finalement, quand on leur prête de l'argent, c'est comme si on le mettait un peu en garantie.
Et la deuxième raison pour laquelle elles ne veulent plus entrer en bourse, éventuellement ?
Parce que ce sont quand même beaucoup d'obligations. Justement, les actionnaires, les fonds de pension et les fonds activistes sont de plus en plus... Ils essaient d'exiger de plus en plus de choses. Et donc, de moins en moins d'entreprises ont envie de se faire coter. Alors, il y a toujours les start-up, bien sûr, qui veulent y aller, parce que c'est une bonne source de financement. Mais les grandes entreprises, regardez Xavier Niel qui a voulu racheter, 20% de son capital.
Le patron de Free.
Le patron de Free, pardon. Moi, j'ai l'impression que la financiarisation de l'économie a atteint son top, son maximum, son apex, et qu'on est en train de revenir un peu en arrière, ce qui serait une très bonne chose, parce que cette financiarisation, on en connaît les conséquences avec les licenciements boursiers et autres.
Ce que vient d'évoquer Christophe Rameau, entre autres. Alors, ça ferait...
Erwan Tison, c'est le fameux vrai grand débat entre les économies ces dernières années. On en est où de cette évolution entre répartition des fruits des entreprises pour les actionnaires et pour les salariés ? Est-ce vrai que c'est les actionnaires qui ont de plus en plus par rapport aux salariés ?
Pas du tout. Je vais citer les chiffres de l'INSEE parce que comme ça...
Ça fait tiquer, monsieur Rameau.
L'INSEE fait consensus chez les économistes. Il faut savoir qu'en 1949, la part de la valeur ajoutée qui était allouée à la rémunération était de 68%.
Donc, au salaire ?
Au salaire, 68%. En 2018, elle a été de 65%. Quand il y a eu quelques variations, effectivement, dans les années 80. D'ailleurs, c'est très drôle de voir qu'en fait, la part allouée au capital a été plus importante à partir de 1980 jusqu'en 1988, pour après, justement, diminuer. Ce qui est très, très intéressant.
Vous voulez dire que ça ne bouge pas. La part allouée au salaire n'a quasiment pas bougé.
Elle n'a quasiment pas bougé depuis 1949. Cette part-là, en France, par rapport au reste des pays de l'Union européenne, c'est la plus élevée. La moyenne européenne est environ à 55% de partage. En France, je le répète, c'est 66%. Et ça n'a pas bougé. L'Irlande, par exemple, on est aux alentours de 25%. L'Allemagne, 57%. Ensuite, il y a quelque chose d'autre que j'aimerais rappeler. Il y a une excellente étude de l'Institut économique Molinari qui est sortie l'année dernière, justement sur